PSG sur France Bleu 107.1. Emmanuel Collardet.
Bonsoir à tous, nous sommes au bout du tremplin, ça y est, avant le grand saut de cette saison, une monumentale série de 8 matchs en 23 jours. Qui va commencer dimanche avec ce duel qui nous fait déjà tous vibrer? Bien sûr, le choc, le classique de la saison contre Marseille au Stade Vélodrome. C'est l'occasion de distancer les Marseillais à 2 points des leaders parisiens. On a rarement eu autant d'enjeux pour un OMPG. On va bien sûr parler de cette confrontation, de cette opposition de style entre deux clubs, deux villes. La ferveur populaire, les stades, les entraîneurs, le jeu de cette saison pratiqué par les deux équipes. On va passer tout ça au crible. On fera aussi un petit tour d'horizon pour ces Parisiens qui n'ont pas tous eu le temps de souffler avec la trêve internationale. Et puis pour le PSG, la trêve de l'info, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Une polémique sur le report refusé de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Encore des supporters expulsés au Parc des Princes. Leonardo qui rêve toujours d'un retour à Paris. C'est le menu de ce Tribune PSG à 6 jours du Classico. Bienvenue à tous.
Rouge, jaune, bleu, les cartons de Tribune PSG.
Ils ont déjà la main à la poche, l'équipe du lundi sur le ring pour échanger sur l'actualité parisienne. Jérôme Touboul du journal L'Équipe, bonsoir Jérôme.
Bonsoir à tous.
Hamza Izir de Metro News, bonsoir Hamza.
Bonsoir à tous.
Et bonsoir Stéphane Bitton de foot123.fr, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Bah, très bien.
Stéphane Bitton donc de foot123, c'est à vous tiens d'ouvrir le bal. On peut dire un petit peu honneur aux dames, non?
Eh bien, honneur aux dames, oui, avec un joli carton bleu pour les filles du PSG. On ne sait pas encore si les garçons iront en demi-finale de la Ligue des Champions, mais pour les filles, c'est mission accomplie, facilement. 2-0 à Glasgow, 5-0 au Parc des Princes samedi.
Qualifiées pour les demi-finales de la Ligue
des Champions. Qualifiées pour les demi-finales, elles rencontreront Wolfsburg, une autre dimension qui est, qui est un peu le FC Barcelone des filles. Mais en tous les cas, bravo aux filles et ça prouve qu'au Paris Saint-Germain, on investit sur les garçons, mais on investit aussi sur les filles. Donc c'est très bien. L'équipe a bien joué, a très bien joué, même si j'en crois, j'étais malheureusement pas au Parc des Princes. Mais en tous les cas, ce que m'ont dit les... Par les 11 000, oui, mais parmi les...
Ils ont maîtrisé leur match de A à Z. Hein,
de A à Z, voilà. Ouais. Donc, une belle performance, pas si rare. Il faut se rappeler qu'au tour précédent, elles avaient éliminé les Lyonnaises, qui sont un peu leur ennemi, leur meilleur ennemi en France. Donc, bravo aux filles du Paris Saint-Germain, bravo à Laura Georges et ses copines. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est déjà pas mal.
Allez, t'as tout dit.
On peut rajouter peut-être Stéphane et messieurs autour de la table, oui, que les filles sont maintenant toujours une marche sur le chemin européen avant les messieurs, puisqu'ils sont donc qualifiés pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Qu'elles ont eu droit aux honneurs du Parc des Princes. Il y avait 11 000 personnes, 11 000 spectateurs. Ça veut dire que le PSG mise aussi sur son équipe féminine. C'est pas juste pour la posture. Ils y croient vraiment. C'est un facteur de développement pour.
Je pense, oui. Et puis d'après ce que j'ai compris, il est pour. Probable, possible que la demi-finale se déroule aussi au Parc des Princes. Donc c'est bien, elles vont prendre place.
Le jardinier britannique Jonathan Kenderwood va laisser les filles jouer sur sa pelouse.
Mais les filles, c'est plus technique, c'est connu. Donc elles l'abîmeront beaucoup moins.
Il y aura moins
d'escalope. Exactement, oui. Moi, je trouve de regarder un match féminin très agréable. Voilà, je le dis, parce que ça me rappelle le foot d'il y a 40 ans, je ne veux pas faire le vieux con, mais voilà, elle tripote bien le ballon,
c'est
et ça
technique.
C'est pas mal.
Plus technique, moins physique, ça va moins vite.
C'est plus technique, ça va vite quand même, mais je trouve qu'il y a encore une fraîcheur que n'ont peut-être plus les garçons. Elles sont moins calculatrices et c'est très agréable à regarder.
Hamza, Jérôme, est-ce que vous prenez le même plaisir à suivre les filles du PSG que les garçons? Est-ce que c'est comparable?
Non, c'est pas comparable, c'est quand même oui, voilà, on va dire que...
Attention Jérôme.
Non, c'est pas comparable, mais il faut admettre que ces dernières années, je trouve moi depuis la Coupe du monde féminine 2011 où les Françaises étaient allées en demi-finale et j'avais été agréablement surpris de voir des matchs d'une bonne qualité. D'ailleurs j'attends la prochaine Coupe du monde au Canada en juin avec une certaine impatience parce que effectivement il y a eu pas mal de progrès dans le football féminin vraiment ces dernières années. On se souvient aussi les Lyonnaises, si on parlait tout à l'heure, avaient remporté la Ligue des Champions. Les Parisiennes ont des vraies chances cette année d'y parvenir. C'est toujours un plus pour un club parce que c'est vrai que le foot suscite, et notamment même le foot à Paris, de plus en plus d'intérêt quand même auprès des femmes. Et un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, où aux États-Unis, c'est assez frappant, quoi. Quand vous allez là-bas, vous voyez plein de jeunes filles, etc., qui jouent au foot, qui suivent le foot.
C'est folle de soccer, hein. C'est voilà. Le pays où il y a le plus de licenciés féminines.
Et donc, c'est bien dans ces cas-là, quand un intérêt se développe, et ben d'être un peu une, on va dire, un moteur. Et le PSG, avec Lyon aujourd'hui, sont un peu les deux moteurs du foot féminin auxquels les jeunes filles peuvent s'identifier.
Les filles donc qualifiées pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Samedi soir, bémol, hein, lors de cette belle soirée, il y avait 11 000 spectateurs au Parc des Princes, mais il y en a certains qui ont été refoulés, expulsés du Parc des Princes, et, alors qu'ils avaient leur billet, alors qu'ils n'étaient pas interdits de stade.
Oui, alors apparemment, on n'a pas encore une version officielle du club qui se serait servi de cet événement pour faire connaître leur mécontentement, on va dire, sur le prix des abonnements, sur la façon dont l'un d'entre eux a été exclu pour une année. Franchement, pour l'instant, on n'a pas la version officielle du club. Donc c'est difficile. Toujours est-il qu'on sait qu'effectivement, 500 supporters ont été exclus.
Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, autour de la table? Jérôme, Hamza, c'est un petit peu dommage pour un club qui veut asseoir sa popularité, de voir des gens comme ça qui se font refouler sans explication officielle.
C'est toujours un peu triste, en tout cas, ça ternit un peu, ça gâche la fête. Après, c'est toujours le même problème. Il est ancien maintenant, depuis que le Qatar est à la tête du club. Enfin, ça date du plan Leproux. Alors après, c'est la question des ultras, l'éternelle question des ultras. Là, en fait, on se retrouve dans une situation où tous ces gens qui se sentent un peu exclus du Parc des Princes s'expriment à travers les matchs, soit des féminines, j'entends qu'ils vont au handball, ou ils vont voir les équipes de jeunes, etc. Alors c'est très bien, il y a de l'ambiance, mais il y a un petit mélange des genres aussi, qui est peut-être pas... Un match de foot doit pas forcément servir de prétexte à exprimer des messages un peu politiques comme ça. Je sais pas, c'est très compliqué. Comme disait Stéphane, de toute façon, y a trop de choses qu'on sait pas pour qu'on puisse vraiment porter un jugement là.
Hamza Izir du journal Metro News, vous gardez la main pour votre carton du lundi.
Alors moi, je vais adresser un petit carton jaune à Leonardo. Je vais pas trop m'étendre puisque je sais qu'on va en reparler un peu plus tard.
On peut y aller.
Simplement, c'est un petit carton parce que sur le fond, on peut pas lui reprocher de vouloir revenir. Et puis il y a plein de supporters qui en ont envie. Voilà, ce serait pas forcément un mal pour le club. C'est plus sur la forme.
Peut-être résumé, hein, il a d'abord dit, lâché dans la presse, hein, qu'il était OK pour revenir. En gros, ça, c'est pas une première. Puis ensuite, il est un peu revenu en arrière. Bon.
Bah, c'est pour ça que je parle de forme. Si j'ai bien compris, il a profité, c'est peut-être pas le mot, mais pendant la retransmission d'un match, du match France-Brésil en Italie, il se serait lâché auprès de certains journalistes qui ont repris ensuite ses propos, qui ont été en off. Et qui aurait été, selon lui, déformé. C'est ce qu'il est venu dire un petit peu plus tard. Donc, en substance, c'est des choses vont bouger d'ici le mois de mai. Moi, j'ai envie de revenir. Je pourrais reprendre mes fonctions. Ce qui est un peu nouveau, c'est que il veut reprendre ses fonctions de directeur sportif. Avant, il était peut-être plus dans une démarche où il voulait être entraîneur. Maintenant, c'est vraiment. C'est vraiment le directeur sportif. Et sur RMC, un petit peu plus tard, c'est pas qu'il dément, c'est qu'une nuance. Il dit « mes propos ont été déformés », ce qui est un petit peu malhonnête, puisqu'on connaît Leonardo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très bien faire passer ses messages. Il n'est pas naïf au point de s'exprimer en off et de dire des choses qui dépassent sa pensée. Donc il utilise
c'est
un
bizarre,
petit peu...
C'est bizarre, je m'interromps, mais sur ce dossier, Leonardo, on a l'impression qu'on est entre deux eaux, là, depuis qu'en gros, il a été expulsé par le football français, qu'il a quitté le PSG par la petite porte. On a l'impression qu'on est toujours dans une zone de flou où, a priori, c'est le casting idéal pour prendre la tête du PSG. Beaucoup d'observateurs disent qu'il manque un vrai patron, un taulier, un directeur sportif au PSG. Et puis finalement, il n'est toujours pas là. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'en interne, il y a quelque chose qu'on lui reproche? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça?
Ce qu'on lui reproche, on le sait un peu depuis un moment. Hein. C'est toujours les... En fait, en gros, ce qui est sûr, c'est que Leonardo veut revenir. Voilà, c'est pas nouveau, comme vous le disiez. Après, au club, on est un petit peu... Pour l'instant, rien n'est prévu. On attend la fin de saison. Voilà, vous parliez du mois d'avril. C'est peut-être pas trop le moment. Mmh. C'est aussi pour ça que je lui mets un carton jaune. C'est un peu malvenu au niveau du timing. Pour le reste, au club, on hésite parce que on sait que quand il est en place, il y a des petits dérapages. Il parle beaucoup... au PSG, le Qatar veut vraiment que la com soit nette et sans bavure. Et avec Leonardo, il y a toujours des petites polémiques, etc. Donc c'est sans doute ce qui freinerait. Mais enfin, il n'y a pas eu de discussion concrète pour l'instant, que je sache.
Alors, rapidement, Jérôme, Stéphane, est-ce que vous y croyez un retour de Leonardo là, pour la saison prochaine au PSG?
Moi, je pense de plus en plus que c'est quelque chose qui peut se faire un jour parce que quand le club fait le tour des potentiels directeurs sportifs, on s'aperçoit que c'est très difficile de trouver un meilleur profil que Leonardo. Et Leonardo, même s'il a été excessif à certains moments, il faut quand même reconnaître, ça reste l'architecte quand même de ce groupe-là, ce groupe qui va... peut-être continuer à faire rêver en Ligue des Champions. Donc il a sa part de mérite aujourd'hui dans ce qui se passe au club. Et voilà, c'est très très difficile de trouver l'équivalent de Leonardo qui peut être à la fois un très bon recruteur et aussi quelqu'un qui a une certaine poigne. Parfois aussi dans la gestion du groupe, hein, pour être l'interface, hein, on le sait, entre la direction du club, le staff, les joueurs, il avait une certaine autorité pour cela, même auprès d'Ibrahimovic, ce qui n'est pas rien. Et donc oui, ce profil-là, il est rare.
Stéphane Bitton, sur un éventuel retour de Leonardo.
Ben moi, je me demande si ce n'est pas conditionné justement par le départ ou pas de Laurent Blanc. Même si on dit que le départ de Laurent Blanc est acquis, aujourd'hui, sa cote est remontée. On ne sait pas encore ce qu'il va faire en quart de finale. Et si des fois, il amène le Paris Saint-Germain en demi-finale et qu'il obtenait 2 ou 3, voire 3 titres nationaux, je pense que ce serait très difficile de le faire partir. Est-ce que lui serait d'accord pour partager un fauteuil avec un manager général de l'envergure et de la poigne de Leonardo? Je pense que c'est peut-être là qu'il faut chercher la suite de l'histoire.
La clé, d'accord.
La clé.
Il y a quand même un aspect qu'il faut souligner, c'est que en l'absence de, enfin depuis le départ de Leonardo, depuis bientôt 2 ans, il y a un vide aussi au niveau de, disons, l'espace médiatique. C'est-à-dire que Blanc doit assumer seul cette parole. Ouais. C'est une charge et pour le coup, Leonardo, voilà, avec tous les défauts qu'il a, c'est quand même là-dessus, quelqu'un qui est très habile pour créer des contre-feux.
Mm-hmm. On va prendre la direction du terrain maintenant avec le dernier carton du soir et Jérôme Touboul.
Alors, c'est un carton bleu à Zlatan Ibrahimovic, dont le talent va jusqu'à une capacité à marquer même quand il ne le cherche pas spécialement. Hein, on a vu son but avec la Suède, je crois que c'était vendredi soir.
Contre la Moldavie. Hein.
Exactement.
Décrire un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais s'il a beaucoup tourné, hein, c'est le gardien moldave qui veut dégager au bras, à la main. Et en gros, il l'envoie directement sur la tête de Zlatan, qui a juste le réflexe d'orienter sa tête vers le but.
Ouais, et ça fait but. Voilà, au départ, même qu'il est 3/4, je pense qu'il l'a reçu.
Il a pas mal de chance. Ouais. Hein, voilà.
Il est tellement grand que le
on en parlait un peu avec Stéphane avant l'émission. Ouais. C'est à se demander quand même. Il y a des joueurs comme ça qui sont hors du commun et qui quelque part créent en permanence des choses hors du commun autour d'eux. Ouais. Voilà, parfois il cherche Ibra à être hors du commun. On connaît son goût pour les gestes, fabuleux, etc. Et là, il y a des types comme ça qui en permanence quelque part créent une actualité autour d'eux sur le terrain. En dehors, c'est la star absolue.
C'est ça qui est beau dans le foot. Hein, nous, on est journalistes, on aime bien tout expliquer, on est rationnel, on aime bien les démonstrations, les choses claires. Mais là, clairement, on n'est pas dans le cadre du rationnel. Là, ça s'explique pas. Il y a des choses un peu comme ça, un peu mystérieuses autour de ce joueur. C'est la baraka.
Franchement, prenez les grands chanteurs, les grands acteurs de cinéma. Ce sont des stars et c'est des gens à qui il arrive toujours des histoires pas possibles et des aventures pas possibles. Alors, probablement parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur eux. Et lui, c'est pareil. Quand il est sur un terrain, même quand il ne le fait pas exprès, comme l'a dit Jérôme, il marque des buts.
Le dernier exploit un petit peu involontaire de Zlatan. Et on va continuer sur cette trêve internationale tout de suite.
Rumeurs, coulisses. La Gazette de Tribune PSG.
Les dernières infos du PSG, donc c'est d'abord les nouvelles des internationaux. D'abord celle de notre bleu, hein, Blaise Matuidi, qui a encore joué les 20 dernières minutes hier soir contre le Danemark. Il a aussi disputé la quasi-totalité de la rencontre face au Brésil. Est-ce qu'il vous a plu sur ces deux matchs, le milieu parisien?
Ouais, il a toujours, il donne l'impression, en tout cas, de chercher son... On dirait son second souffle quand on court, ou on pourrait dire aussi son niveau de la saison passée. Il est plein de bonne volonté et puis voilà, il récupère plein de ballons. Je l'ai trouvé quand même un peu moins percutant que ces dernières semaines avec Paris. Peut-être aussi qu'inconsciemment il se ménage à cette période de l'année pendant l'amical.
Il a cherché probablement.
On peut dire aussi qu'il a été à l'image de l'équipe de France face au Brésil, tout simplement. On peut pas dire vraiment qu'il y ait des joueurs français qui soient ressortis du lot.
Stéphane, on peut même dire que Thiago Silva, en face, il était un petit peu à l'image de son équipe, encore plutôt un match assez réussi pour le défenseur parisien.
Exactement. Le Brésil a surpris tout le monde. Il est redevenu. Alors c'est peut-être pas encore le grand Brésil, mais en tous les cas un Brésil solide. Je crois que c'était la 7e victoire consécutive pour les Brésiliens, 2 buts encaissés seulement, dont un contre la France. Voilà, de la poigne d'Unga a ramené du sérieux dans la maison Brésil.
Et après la 7e, il y a une 8e victoire consécutive, okay. Un peu plus difficile
face au Chili.
Voilà, 1-0.
Mais avec encore un excellent Thiago Silva.
Effectivement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens. Des nouvelles aussi de l'Italie avec Marco Verratti qui lui avait une belle carte à jouer, hein, avec l'absence de Pirlo samedi soir, messieurs. Alors malheureusement, ça s'est terminé sur un nul de partout, avec surtout un petit Marco qui n'a pas vraiment brillé. Pourquoi, pour l'instant, il reste moins bon en retrait par rapport à son niveau parisien, le petit Verratti?
C'est l'éternelle histoire de la différence de poids, du maillot. Le maillot pèse d'un poids différent en sélection. Voilà, mais il apprend très vite Verratti. C'est vrai qu'il n'a pas été, notamment sur un début, hein, il est un peu distancé assez facilement par son adversaire. Voilà, écoutez, cela dit, je pense que l'Italie va quand même beaucoup miser sur lui au cours des prochaines années.
Bon, il n'a pas trop de soucis à se faire, a priori, pour son avenir international, Marco Verratti.
Non, pas trop de soucis, c'est plus l'équipe d'Italie, en fait. Hein, quand on regarde le match qu'ils ont fait, alors on peut reprendre en fait ce qu'a dit Stéphane pour Matuidi. Verratti est à l'image de l'équipe, quoi. Franchement, il n'y a pas vraiment un joueur italien à sortir du lot dans un match pareil. C'est pas étonnant qu'il ait eu un peu de mal.
Allez, la trêve internationale qui se termine demain soir, hein, c'est pas complètement terminé. Il y aura Suède-Iran pour Ibra, Pays-Bas-Espagne pour Vanderville, Italie-Angleterre pour Verratti et Sirigu, justement. Et puis dans la nuit, Argentine-Équateur pour Pastore et Lavezzi, qui ont battu le Salvador, hein, tout d'abord aux États-Unis lors de leur premier match. Lavezzi a joué les 90 minutes, alors que Pastore, lui, n'est entré qu'à 12 minutes de la fin. On continue de repasser, de parler de l'actualité parisienne avec, bien sûr, un gros chapitre sur le classique dans quelques minutes. À tout de suite.
L'infotrafic sur France Bleu 107.1, numéro 1, grâce à vous.
On risque d'être scotché là pendant des heures.
Il restait 2h30 dans les bouchons, je préfère quand même rentrer plus vite chez moi.
J'essaie de faire reculer les personnes de façon à se sortir de là.
Bonne route à tous, bon courage.
Le trafic en région parisienne, vous le vivez, partagez-le.
Sur France 3 Paris-Île-de-France, faites un plongeon au cœur de la capitale avec le magazine Paname. Explorez Paris et redécouvrez l'histoire de ses rues et de ses quartiers.
C'est un lieu politique, un Jaurès, le grand Jaurès a prononcé des discours.
Avec Yvan Alloin, Paname donne la parole à ceux qui façonnent Paris.
On a tout l'ouest parisien qui vient s'encanailler ici.
C'est donc là.
C'est donc ici.
La fameuse salle.
Immergez-vous tous les dimanches à 11h30 sur France 3 Paris-Île-de-France.
Tu veux dire que là on est dans un trou d'obus ?
Paris à la loupe et sous toutes les coutures, c'est dans Paname.
Alors papa, la protection de ta maison, t'en es où ?
À nulle part, où c'est trop cher ou c'est trop compliqué.
Pourquoi tu vas pas au Crédit Mutuel ?
Arrête avec ta banque.
Bah, il te propose le numéro 1 de la télésurveillance, ça rentre dans ton budget et en plus c'est accessible aux gens comme toi.
Comment ça, comme moi ?
Les gens qui ne sont pas au Crédit Mutuel, papa.
Ah, je préfère.
Le Crédit Mutuel met la protection du domicile à la portée de tous. Et ça, ça change tout.
Service opéré par EPS numéro 1 de la télésurveillance résidentielle en France, titulaire d'une autorisation délivrée par le CNAPS qui ne confère aucune prérogative de puissance publique. Plus d'infos sur créditmutuelprotectionvol.fr ou au Crédit Mutuel.
Avec France Bleu 107.1 et la page Transport du Parisien, on fait la route ensemble.
Et on retrouve tout de suite Guy Registe pour faire un point complet sur vos conditions de circulation. Comment ça roule en ce moment, Guy ?
Avec seulement 12 km de ralentissement, c'est le calme plat sur les routes d'Île-de-France. Une panne à vous signaler sur la 86 extérieure, ça se passe à Thiers vers Choisy-le-Roi. Partout ailleurs, c'est le vert qui domine. Profitez-en dans les transports en commun. Un petit tour à la RATP, trafic normal sur l'ensemble des lignes de RER, métro, bus et tramway. À la SNCF, qu'en est-il ? Quelques ralentissement en ce moment, notamment sur la ligne A, mais partout ailleurs, ça roule bien, rien à signaler là aussi.
On fera un petit point tout à l'heure sur cette ligne 1, notamment avec vous Guy, ça sera aux alentours de 21h, juste avant même.
Tribune PSG sur France Bleu 107.1.
Tribune PSG, retour dans le studio de Tribune PSG avec Stéphane Bitton de foot123.fr, Jérôme Touboul de l'équipe et Hamza Izir de Metro News. Mais si on passe maintenant à l'affaire du calendrier, hein, vous savez que le PSG voulait alléger un petit peu son programme infernal du mois d'avril, mais finalement c'est non. La demi-finale de Coupe de France aura bien lieu le mercredi 8 avril, soit 3 jours seulement après le Classico, 3 jours aussi avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia. On a appris ce matin que c'est Saint-Etienne qui a refusé le report, en tout cas ce qui est sorti, hein, ce matin. Et est-ce que c'est normal tout ça ? Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce refus ?
Alors, on serait en Angleterre, je pense qu'on ne parlerait même pas de ça. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a un calendrier, toutes les équipes s'y plissent, il faut jouer tous les deux jours, on joue tous les deux jours. En France, on a toujours tendance à vouloir, effectivement, ménager. Moi, je pense que ce serait mieux, effectivement, de ménager le Paris Saint-Germain quand on sait qu'il va enchaîner quand même Marseille, Saint-Etienne, Bastia et Barcelone. Et Barcelone, donc le dernier match de cette série qui est quand même probablement le plus important pour eux de la saison. C'est vrai que ils ont un banc, ils ont une équipe qu'ils vont pouvoir faire tourner, mais on leur a pas facilité la tâche sur ce coup-là. Alors maintenant, c'est de la responsabilité de qui ? C'est là que pour l'instant les choses sont pas très claires.
Je pense qu'il y a, en fait, tout est parti d'un malentendu, du fait que Saint-Étienne, au départ, laisse entendre au PSG qu'ils sont OK pour réfléchir à ce changement de date. Et puis finalement, il y a une volte-face. On veut jouer au jour prévu, ce qui peut se comprendre, parce que effectivement, pour eux, c'est de bonne guerre aussi de la part de Saint-Étienne. Ils se disent que leur intérêt est peut-être de jouer le PSG dans cette période-là plutôt que à la fin du mois d'avril. Le problème, c'est qu'au début, ils ont laissé entendre que oui, ils seraient OK pour déplacer le match, et donc ça a créé peut-être une petite tension entre le club, surtout que normalement, c'est deux clubs qui s'entendent plutôt bien. Enfin, notamment un des deux présidents de Saint-Étienne, Bernard Caillazo, a de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Donc, on pouvait penser que ça s'arrangerait effectivement à l'amiable. Mais bon, il y a eu un peu de brume, qu'on va dire, autour de ce dossier.
Ça aurait pu être plus transparent. Vous êtes d'accord, Hamza ?
Bah oui, ça aurait pu être plus transparent, ça c'est sûr. Ce qui est étonnant, enfin, ce qui ajoute au flou, c'est c'est ce communiqué du PSG qui s'en prend à la FFF, qui parle de décision unilatérale, et puis on lit le PV, on entend aussi Bernard Caillazo le lendemain, qui admet que c'est Saint-Etienne qui refuse. Donc à aucun moment le PSG s'en prend à Saint-Etienne. C'est très confus, c'est très difficile.
Le PSG, on le sait, est un club très ambitieux qui se retrouve donc à jouer 4 compétitions, finalement c'est logique. Est-ce qu'il est vraiment victime sur ce terrain finalement ? Est-ce qu'il n'est pas juste victime de son succès tout d'abord ?
Non, cela dit, moi franchement, je ne suis pas spécialement inquiet pour le PSG avant ce match. Et même, on connaît grosso modo l'équipe Caligne Blanc quand il fait tourner, avec des joueurs comme Digne à gauche,
Van der
Vlucht, c'est pas maquillose, Duchesse, Rabiot, ouais, ouais, etc. Bon, c'est souvent une équipe quand même qui fait le boulot assez proprement, des joueurs que la plupart des équipes de Ligue 1 aimeraient avoir. Donc le match a lieu au Parc en plus. Bon, c'est quand même, là, on le sait, toujours un atout. Le PSG, dans les coupes au Parc des Princes, 95% du temps, ça passe. Donc, je pense qu'il n'y a pas matière à être spécialement inquiet quand même. Voilà.
On a vu que Monaco s'est vu aussi refuser le report de son match de Ligue 1 contre Montpellier le 7 avril. Monaco qualifié également pour les quarts de finale avec des champions.
Je pense qu'on n'aurait pas compris qu'on donne gain de cause à Monaco et pas au Paris Saint-Germain.
Mais au contraire, on a peut-être pu justement accéder à la demande des deux clubs. Est-ce que le foot français aujourd'hui fait tout ce qu'il faut pour protéger ces clubs qualifiés en Ligue des champions ?
Non, clairement pas.
Hamza a raison, il fait tout pour protéger son calendrier. Pour respecter les dates, on nous explique qu'il faut au moins 16 jours pour organiser la finale de la Coupe de France. C'est quand même un événement qui a lieu depuis 1918 tous les ans, donc c'est pas une grande surprise. Après les demi-finales, il y a une finale. 16 jours pour pouvoir envoyer les invitations à tout le monde et ainsi de suite, parce que c'est ça au départ qui bloque tout. C'est ces fameux 16 jours qui ont fait qu'on n'a pas pu décaler tout le calendrier de cette compétition.
Et je me rappelle aussi, puisqu'on parlait de Leonardo, d'une de ses premières déclarations après son arrivée à Paris, qui s'étonnait, je crois, qu'une journée de Ligue 1 ou qu'un match de coupe soit programmé en même temps que la finale de la Ligue des Champions, ou très peu de temps d'intervalle. C'est-à-dire que à aucun moment, quand on établit le calendrier, on anticipe sur le fait que des clubs français vont dépasser les huitièmes. Concrètement, on en est là, on a deux clubs en quart, et si on en a deux en demi, ça va être le même sac de nœuds, ça va même être encore pire.
Bah, la finale de la Coupe de la Ligue, ouais, est programmée. Le match contre Metz était normalement prévu le jour de la finale de la Coupe de la Ligue.
Oui, alors
la
veille.
Ouais, mais là, depuis quelques années, il y a toujours une journée de championnat en même temps que la finale de la Coupe de la Ligue.
Juste la veille, un truc comme ça.
Justement, il faut peut-être imaginer quand même qu'un club de Ligue 1 est peut-être capable d'aller en finale de la Coupe de la Ligue. Ce serait pas mal, effectivement, d'envisager ça.
On peut espérer que le PSG, même Monaco, vont offrir un nouveau casse-tête aux dirigeants du football français. Petit tour d'horizon de l'actu parisienne. Et maintenant, évidemment, c'est l'heure de parler d'un match qui va compter, qui va peser très lourd dans cette saison de championnat.
Tribune PSG, le match de la semaine.
Le match de la semaine, hein, qui sera peut-être aussi le match de l'année. En tout cas, l'affiche entre les deux meilleurs ennemis du foot français, elle aura rarement été aussi alléchante. Hein. Messieurs, on va parler ensemble de ces deux mondes qui adorent se détester, deux trajectoires bien différentes qui vont se croiser dimanche soir. Et d'abord, une confrontation côté tribune avec l'Olympique de Marseille qui nous promet un instant jamais vu dans un stade français pour ce dimanche. On imagine un tifo géant qui va faire le tour du stade. Visiblement, l'OM a l'intention de démarrer le match avant le coup d'envoi sur le terrain des tribunes. Le club dit que seuls les Marseillais ont la capacité à se mobiliser pour offrir cette mise en scène sur ce terrain de l'ambiance dans le stade. Est-ce que le match n'est pas perdu d'avance pour le PSG ? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus d'ambiance aujourd'hui du côté du stade Vélodrome qu'au Parc des Princes ?
Bah, c'est la question des groupes ultra, là, encore une fois. C'est-à-dire que depuis la disparition des groupes, clairement, il y a moins d'ambiance au Parc des Princes. Puis avec l'augmentation du prix des places, fatalement, c'est le même phénomène, c'est les mêmes conséquences. Donc ce match, effectivement, est perdu d'avance. Et d'ailleurs, l'OM en joue. Ça fait déjà plusieurs années que sur les réseaux sociaux, ils chambrent le Parc des Princes sur son manque d'ambiance. Donc bon, c'est un petit peu facile.
Vous sentez, vous aussi, Stéphane, Jérôme, l'envie de faire un peu mal?
Non, j'ai toujours pensé que ça jouait sur le rectangle vert, comme on dit, et pas ailleurs. Et que, de toute façon, qu'il y ait du bruit, maintenant, le Paris Saint-Germain est habitué à évoluer dans des grands stades européens, à rencontrer Barcelone plusieurs fois au Camp Nou. Je pense que ce sera pas pire, ce sera pas plus. Il y aura du bruit, très bien, mais ces matchs-là motivent les joueurs du Paris Saint-Germain. Mmh. Ils le disent tous avant, c'est des matchs qu'on aime jouer. Et ils aiment les jouer pour cette ambiance-là. Donc je pense que c'est la théorie du 12e homme, moi, c'est, je suis très mitigé là-dessus.
Jérôme ?
Non, mais c'est un groupe, là, le groupe parisien, qui aime l'adversité. On l'a encore vu récemment à Chelsea, des conditions très spéciales. Ils se retrouvent à 10. Alors certes, il n'y a pas une ambiance de dingue à Stamford Bridge. Mais enfin bon, ils avaient quand même pas mal d'éléments contre eux. Et souvent, c'est quelque chose qui leur plaît. J'en viens presque à penser parfois que peut-être même ils préfèrent évoluer à l'extérieur. Je crois que effectivement, certains joueurs, des fois... trouve que l'ambiance du Parc des Princes n'est pas toujours effectivement explosive. Certains, ceux qui viennent de Naples peut-être, sont habitués à un peu plus de...
On a vu David Luiz haranguer Thiago Silva plusieurs fois. Hein.
Voilà, justement, messieurs, est-ce qu'il n'y a pas un certain croisement de courbes dans ce domaine-là? Uniquement, on n'est pas sur le terrain, on va y aller bien sûr, mais pour ce qui est des tribunes, c'est comme un spectacle aussi, le foot, c'est important. Il y a un peu moins d'ambiance au Parc des Princes, qui a été qui a été un stade absolument magique. De l'autre, il y a le stade Vélodrome, qui est couvert, qui offre aujourd'hui une caisse de résonance beaucoup plus importante. Est-ce que, voilà, il n'y a pas un petit croisement de courbe de ce côté-là?
Je pense que c'est le scénario des matchs qui fait beaucoup aussi pour l'ambiance. J'étais au Parc des Princes pour le match face à Barcelone. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle ambiance au Parc des Princes. On parle bien sûr avec nostalgie des matchs face au Real, mais si comme Boiré ne met pas sa tête dans les arrêts de jeu, peut-être que c'est un match presque normal. J'y étais, c'était bien, c'était beau. Et puis après, il y a le scénario qui fait que quand on marque un but à la dernière minute, Pastore l'année dernière, face à Chelsea, je crois, tout ça participe à l'ambiance. Alors effectivement, Marseille a un beau stade maintenant, un stade qui a même battu un record ce week-end en rugby avec presque 65 000 spectateurs. Évidemment, 65 000 personnes qui vont encourager l'Olympique de Marseille, c'est bien pour l'ambiance, c'est bien pour le match, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui handicape les Parisiens.
Si l'ambiance faisait tout, Dortmund serait peut-être champion d'Allemagne chaque année. Hein, et ça ne suffit pas toujours.
Ce qui ne sera pas le cas, loin s'en faut, cette saison pour terminer.
Il se rattrape bien quand même.
Pour terminer côté tribune, messieurs, on voit aussi qu'une fois plus, ça gronde sur le déplacement des supporters parisiens. Effectivement, pour ce voyage, on sera loin de la première classe, hein, puisqu'il faudra se débrouiller pour aller jusqu'à Avignon. Ensuite, après le match, les fans vont se retrouver dans la même gare TGV d'Avignon à 2h du matin. Tout ça pour attendre le premier train qui ne part qu'en fin de nuit. Tout ça pour 50 euros, le PSG aurait-il pu faire plus pour ses supporters pour ce classico ?
J'ai cru comprendre qu'ils ont déjà fait un effort. C'est-à-dire que prix de la place en soi était de 55 euros. Et donc ça là, on a un déplacement plus la place à 50 euros. Enfin, juste le Avignon, ouais. Avignon-Marseille. Donc c'est un effort. Est-ce qu'ils auraient pu faire plus
Je pense aussi que la Ligue et les pouvoirs publics... peut-être veulent éviter aussi des grands mouvements de supporters. Ça marche dans les deux sens. N'oublions pas que les policiers, l'armée sont mobilisés sur plein d'autres dossiers en ce moment et que c'est peut-être ils ont d'autres choses.
Ça a pu peser sur la décision, en tout cas sur la voilà. façon dont
c'est
les
plus facile. C'est plus facile de canaliser.
Un club n'a pas l'obligation de subventionner des déplacements de
non,
de,
c'est
de
bien, supporters, c'est déjà bien qu'ils le fassent. Mais ouais. voilà, 500 supporters, je pense que fallait pas compter sur plus. Si j'ai bonne mémoire, il s'était passé la même chose au match aller pour les Marseillais. Voilà, moins il y a de Parisiens qui se déplaceront, plus il y a de Parisiens qui resteront devant leur télé, plus ce sera facile à gérer pour les pouvoirs publics.
Allez, après les tribunes, on va se rapprocher de la pelouse, on va aller au bord de la pelouse. C'est le décor hein, d'une image qu'on a beaucoup vue cette saison, celle d'un homme assis sur sa glacière, Marcelo Bielsa. Un personnage qui tranche avec l'univers du PSG, plutôt feutré. À Marseille, on sait que la greffe a vraiment bien pris, en tout cas avec le public. Les fans de l'OM en sont assez fous. Est-ce que vous le verriez entraîner le PSG, Marcelo Bielsa ?
Non.
Clairement non.
Ah non, on voit rien qu'à... À son CV, au club qu'il a entraîné, il a jamais entraîné de vraiment gros clubs avec des gros égos à gérer, puisque justement, il est très autoritaire. C'est-à-dire qu'à un moment, à un certain niveau, et dans certains, surtout dans le football moderne, dans ce qu'on appelle les très grands clubs, avec des joueurs qui sont souvent payés un peu plus que le coach, voire beaucoup plus, c'est quand même très compliqué de pas... de pas devoir faire preuve de diplomatie. Alors on a vu les limites par exemple de ça, Mourinho au Real Madrid, c'était quelqu'un qui considérait que sa propre mythologie était supérieure à celle du club et ça a très très mal fini. On a eu des gros clashs y compris avec ses lieutenants Ronaldo et Pepe. Bielsa avec Zlatan, avec Thiago Silva, avec des gros égos comme ça. Enfin peut-être que je m'avance, hein, j'en sais rien, mais je constate qu'il a entraîné Bilbao, qu'il a fait progresser le Chili. En fait, il a jamais gagné des très grands titres, mais il a toujours fait progresser des équipes. Donc il a quand même besoin sans doute d'une forme de domination sur son groupe qu'il n'aurait peut-être pas au Paris Saint-Germain avec l'effectif actuel.
Vous êtes d'accord là-dessus, Jérôme, Stéphane ?
Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Pour l'instant, il n'a pas... Le problème, quand on veut entraîner un grand club, j'allais dire, c'est presque l'histoire de la poule et de l'œuf, il faut déjà avoir entraîné un grand club. Là, on se demande quand ça commence, mais on va de grand club en grand
pour
club.
Pour Laurent Blanc, ça commence avec le PSG, clairement.
Oui, voilà, mais ça permettra probablement, et c'était toute l'intelligence de Laurent Blanc d'avoir accepté d'être le sixième choix, parce qu'il savait que c'était aussi un bon tremplin pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Marcelo Bielsa au Paris Saint-Germain, effectivement, comme ça, vu de nez, on se dit que la greffe ne prendrait pas forcément, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Pour ce qui est du PSG, vous voulez y ajouter quelque chose, Jérôme ?
Non, en tout cas, il faut admettre que c'est un entraîneur qui sent bien les coups, quand même, hein, franchement. Qui parfois on a l'impression, alors il y a eu le cas d'Oria certes, mais il y a aussi certains joueurs qu'il a su bien manager finalement, même s'il y a des tensions parfois, mais on voit que sur le terrain, une fois de retour sur le terrain, les types donnent le maximum. Alors, est-ce que c'est même en réaction contre lui, etc. Mais enfin, en tout cas, voilà, il faut admettre que cet OM là tire quasiment le maximum
de son
potentiel. Et il y a eu quelques inspirations. Alors ça, c'est toujours les limites du coaching. Est-ce que c'est grâce à l'entraîneur. Il faut admettre que récemment, par exemple, sur Batshuayi, etc., il a plusieurs fois bien senti le coup en le faisant rentrer. Il a bien conditionné ce joueur-là, qu'on voyait quasiment pas sur la première partie de saison. Et aujourd'hui, il les a ramenés dans la course au titre. Quand même.
Laurent Blanc, il a évidemment un groupe très différent, mais est-ce que vous pensez qu'il a la même qualité de flair, justement, que Marcelo Bielsa, la façon de sentir ses joueurs ?
Laurent Blanc, il nous surprend semaine après semaine. On a tellement dit qu'il n'était pas capable ou pas apte ou n'avait pas encore assez d'expérience pour mener ce groupe loin. Alors, on l'attend là, cette fois-ci, en quart de finale, on attend enfin ce tour passé, ce tour supplémentaire, puisque le Paris Saint-Germain a l'habitude de se casser les dents en quart de finale. Mais pour l'instant, on peut dire qu'il a plutôt bien géré son groupe. On a parlé dans d'autres émissions du cas Thiago Silva, à qui il a su toujours donner sa chance et lui tendre la main au moment où il était au plus mal. Il gère plutôt bien Ibra, qui est quand même, on le disait en début d'émission, un garçon qui n'est pas facile à gérer. Dans l'ensemble, je pense qu'il tire la quintessence de son groupe, lui aussi. Un autre groupe avec des égos beaucoup plus surdimensionnés que ceux que Bielsa gère à Marseille. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à Laurent Blanc. Il peut même devenir un entraîneur historique, déjà à réussir un triplé national et pourquoi pas aller encore un peu plus loin en Ligue des Champions.
Ils sont dans un contexte très différent, des caractères aussi probablement assez éloignés, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas deux bons managers à leur façon, Bielsa et Laurent Blanc? Ils conduisent plutôt bien leur barque cette saison, vous trouvez?
Bah, clairement, après, Laurent Blanc a quand même plus de choses à prouver. C'est vrai, effectivement, qu'il est, il est étonnamment bon sur ses, on va dire, depuis le mois de janvier, puisque la première partie de saison, voilà, il cristallisait un peu les critiques, ce qui est normal, hein, puisque c'est sa deuxième saison et puis que ça ne se passait pas très bien. Il ne faut pas oublier quand même cette première saison qu'il fait, comment il transfigure cette équipe, certains matchs absolument incroyables qu'on a vu, la qualité du jeu développé. C'est vrai qu'il est très étonnant. Enfin, il n'a pas encore le bagage d'un Bielsa. Bielsa, là où il est étonnant, c'est qu'il arrive à... Voilà, vous voyez, c'est les 11 mêmes joueurs qu'avait José Anigo, qu'ont eu José Anigo et Libop l'an dernier. Et on voit quand même une sacrée différence. Alors après, ce serait sans doute amusant comme expérience d'inverser et de voir ce que ferait chacun de ses coachs dans, dans l'autre club. C'est pas sûr que ça réussirait, mais on serait peut-être surpris, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Blanc est en train de montrer qui a de quoi faire une grande carrière, comme disait Stéphane. Enfin, il a le potentiel, visiblement.
Alors, sur ce qu'on voit sur le terrain, sur la philosophie de jeu maintenant, quelle est l'équipe qui a le jeu le plus spectaculaire, qui joue le mieux cette saison?
Bah, si on aime le jeu offensif, c'est Marseille. Mmh. Parce que Marseille marque plus de buts, il y a un peu plus de folie dans les matchs de l'OM. Maintenant c'est aussi le PSG, peut-être sans être aussi éblouissant que la saison dernière, mais il a peut-être quand même un peu plus de maîtrise globalement, hein, sur l'ensemble des matchs, et il a des joueurs, des individualités plus fortes. Mais Marseille, moi je répète, hein, je crois qu'ils ont vraiment ils optimisent leur potentiel. Voilà. Sur la première partie de saison, notamment, ils ont été très très costauds.
Stéphane Piton, vous n'êtes pas complètement d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le Paris Saint-Germain est très nettement supérieur à l'Olympique de Marseille.
Vraiment, même dans le jeu?
Vraiment, même dans
le jeu. Sur l'ensemble de la saison, on ne peut pas dire qu'il soit très nettement supérieur à l'Olympique de Marseille.
Laquelle joue le mieux? C'était ça la question. Après, la plus efficace, c'est peut-être autre chose.
Bon, alors pour l'instant, ils sont devant, déjà, au classement. Et quand on sait le nombre de points abandonnés... Dans des rencontres traquenards où ils ont terminé à 9 ou des choses comme ça, où ils menaient 2-0 pour perdre 4-2. Je pense que dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain, pour avoir vu quasiment tous les matchs de l'OM aussi, cette saison, l'OM c'est aussi souvent Gignac à la 87e ou à la 89e, le 1-0 qui fait les 3 points et qui... c'est pas pour moi une équipe qui me marque dans le...
Je pense que sur la première partie de saison, Marseille dégage plus de puissance que Paris. Maintenant, là, depuis le début 2015, effectivement, le PSG est une équipe, voilà, peut-être aussi qui joue pas mal sur son expérience. Marseille est un peu plus sur un fil à l'arraché.
Je pense que Marseille a déjà tout donné.
Mais ils ne sont pas largués.
Je suis d'accord avec toi.
Il faut aussi relativiser. C'est quand même une question d'effectif et de budget aussi, à un moment, quand on compare. C'est-à-dire que l'OM fait avec ses moyens.
En rapport qualité-prix, oui. Alors là, je suis d'accord avec vous.
C'est quand même très étonnant de les voir finalement à ce niveau-là.
Pour vous, Hamza, le jeu le plus spectaculaire, le plus beau jeu cette saison, marseillais ou parisien?
Pour moi, ce serait plutôt Marseille. Je rejoins Jérôme en fait sur le fait qu'il y a plus de prise de risque dans le jeu de Marseille. C'est-à-dire que, alors effectivement, du coup, ça donne pas mal de contre-attaques. Il y a plein de matchs en fait où ils prennent l'eau, puis on les a vus perdre du coup, mais il y a aussi plein de matchs qu'ils ont gagnés, qu'ils auraient pu perdre 3-0 quand on regarde bien le nombre d'occasions. Mais c'est plus agréable à regarder, disons, globalement. Je parlais du PSG de l'an dernier. Le PSG de l'an dernier était beaucoup plus spectaculaire que celui de cette saison. Il faut bien dire.
Ça, c'était donc sur le banc de touche. On va se diriger maintenant sur la pelouse. Hein, messieurs, si on compare les talents maintenant des joueurs parisiens et marseillais, spontanément, on voit bien sûr un PSG quand même assez au-dessus, voire nettement au-dessus de l'OM. Alors, c'est vrai que Marseille n'a pas de Zlatan, hein, de Verratti ou de Pastore, mais l'effectif parisien, est-ce qu'il est vraiment supérieur à Marseille sur tous les postes? Je vous propose quelques petites comparaisons comme ça. L'avait dit, par exemple, est-ce que c'est plus fort en ce moment que Payet ou Batshuayi?
Non. Bah, clairement non.
Là, vous avez choisi le bon exemple.
C'est ça.
La réponse à votre question, on peut aller jusqu'à Cavani.
Alors là, franchement, je ne sais pas si mes camarades vont être d'accord avec moi, mais je pense que l'effectif du Paris Saint-Germain est nettement supérieur à celui de l'Olympique de Marseille. C'est d'ailleurs tout le mérite de Marseille d'être arrivé à être toujours dans la course. Pour moi, Marseille est à son maximum. Voilà. Alors que le Paris Saint-Germain a encore une marge de progression. Alors, si tout le monde se met à bien jouer, tous ces joueurs de grands talents, alors Paris peut aller très loin. Là, Marseille, à mon avis, est à son maximum, a tout donné et donnera pas plus, ne peut pas donner plus. Et le match de dimanche va être essentiel et ça va être une vraie belle réponse à toutes nos questions.
Vous pensez, comme Stéphane Bitton de Foot 1, 2, 3.fr, messieurs, que Marseille ne peut pas faire mieux que ce qu'il a déjà fait cette saison? qui peut pas se transcender pour ce classique, ce qui arrive quand même assez souvent quand il y a le PSG en face.
Ils ont quand même fait quelques très gros matchs. Après, ils les gagnent pas. C'est-à-dire que le meilleur match qu'ils font, c'est celui contre Lyon, là, le 0-0. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est ce qu'a dit Marcelo Bielsa aussi, je crois. Il y a aussi le match aller à Lyon où ils sont énormes et où ils perdent à la fin. Donc il y a un moment aussi où j'ai l'impression qu'ils essayent de trop bien faire. Ils ont quelque chose à prouver. Ils veulent se prouver qu'ils peuvent aller chercher ce titre. Et c'est dans ces moments-là qu'ils déraillent ou qu'ils perdent un peu leur sang-froid. Pour le reste, sur la longueur de la saison, c'est quand même pas mal. En gros, s'ils continuent comme ça, on peut très bien imaginer qu'ils finissent champion de France.
Hein. On va dire qu'aucune des deux équipes a vraiment un collectif phénoménal cette saison ou même en ce moment. Alors, mais au niveau des individualités, on connaît celle du PSG. Il faut quand même se méfier de l'OM parce que je pense qu'ils ont 2-3 joueurs en pleine confiance. Payet, Batshuayi, on peut peut-être ajouter aussi André Ayew.
Mboula est très bon.
Il est suspendu.
Je parlais des joueurs les plus offensifs en tout cas. Et donc voilà. ils ont un peu plus de talent peut-être de ces dernières années. Parfois, on cherchait le talent à Marseille et là, ils ont quand même quelques individualités qui peuvent embêter tout adversaire.
On reste avec les joueurs, mais cette fois du côté du camp des loges où les internationaux sont en train de rentrer au compte-gouttes en ce moment. C'est le cas de Blaise Matuidi qui est bien content Blaise Matuidi d'avoir du temps pour préparer cet OM-PSG.
Maintenant, on peut y penser, on va bien travailler cette semaine. On a la chance d'avoir une semaine pleine. On a beaucoup qui vont avoir terminé demain et après-demain. Donc jusqu'à dimanche, ça nous laissera le temps de bien travailler. Donc on sera vraiment prêt pour ce grand match. Après, on sait que ça va être un match difficile. Ils jouent chez eux. Donc on s'attend à une adversité féroce. On sait qu'il y aura leur public aussi derrière. Mais le Paris Saint-Germain est habitué à ce genre de match. Donc ça va être un bon match. C'est une bonne équipe et ils sont à 2 points. Ils font une très bonne saison. Mais on va être présent et comme je l'ai dit, on a habitué à ce genre de match. Donc on va tout faire pour gagner parce que quand on joue au PSG, on se doit de gagner ce genre de match.
Voilà, Blaise Matuidi, donc hier soir dans les travées du Stade de France après la victoire des Bleus contre le Danemark. Il faut préciser que certains Parisiens ne seront pas de retour au camp. C'était pas évidemment au Stade de France, c'était à Saint-Etienne bien sûr. Que certains Parisiens ne seront pas de retour au camp des loges avant mercredi, voire jeudi. C'est le cas de Zlatan, de Verratti, Sirigu, Van der Ville, Pastore et Lavezzi. Est-ce que c'est pas un petit handicap quand même pour préparer cette rencontre?
À cette période de la saison, en général, les entraîneurs disent que l'essentiel est fait et que c'est beaucoup de récupération. Donc, comme l'a dit Matuidi, ils ont quand même une semaine pour récupérer. Bon, les internationaux qui ne rentreront que mercredi ou jeudi n'auront que 3 ou 4 jours, mais je pense que ce sera suffisant.
Ils se connaissent par cœur quand même maintenant, tous les joueurs parisiens. Là, donc oui, en se retrouvant jeudi, ça suffira.
Bah, disons que 3 jours à leur échelle, après un match international, c'est presque du luxe. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très souvent revenus le vendredi pour jouer le dimanche. Quoi. Que bon, a priori, ça va pas être un souci.
Peut-être un petit peu de fatigue pour Pastore et Lavezzi qui vont revenir jeudi après un voyage. Ils ont volé au-dessus de l'Atlantique.
Un
peu lourd peut-être.
Après, l'adrénaline du match va faire qu'ils vont compenser ça. Là, c'est quand même un match particulier.
Un bon film en business class. moins fatigué, hein, qu'en classe éco.
Ils pourront le raconter à leurs coéquipiers. Ça sera sûrement très intéressant dans le vestiaire du côté du camp des loges. Ce classique à Marseille, c'est seulement le premier, on l'a dit, des 8 matchs que les Parisiens vont jouer ce mois-ci. Calendrier démentiel avec dans la foulée 3 jours après la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, 3 jours plus tard la finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia, 4 jours de plus et ça sera ensuite le quart aller de la Ligue des Champions contre Barcelone. Est-ce que ça va pas peser un petit peu sur les esprits parisiens dimanche au Vélodrome? Est-ce qu'ils, même inconsciemment, ils n'auront pas envie de s'économiser un petit peu?
Dans cette série, je pense qu'il y a 2 matchs extrêmement importants, c'est celui de dimanche contre Marseille et puis celui contre Barcelone. J'allais dire, c'est quand même un grand luxe de pouvoir aborder Bastia en finale de la Coupe de la Ligue comme étant le match le moins important de cette dizaine de jours d'enfer. Non, je pense que Paris Saint-Germain peut tout à fait passer. Comme Jérôme le disait en début d'émission, je crois que ce pari-là est taillé pour pouvoir faire face sur ces 4 rencontres-là.
Oui, puis ce match est quand même prioritaire dans leur esprit. Imagine, ils ont très envie d'être champion de France aussi. Barcelone, c'est pas tout de suite. Donc là, je pense pas qu'inconsciemment... j'imagine que... Ils vont être à fond dedans, comme on dit.
Des nouvelles des blessés maintenant. Qui peut-on espérer de retour dans le groupe? Lucas, David Luiz, Cabaye, qui a des nouvelles, messieurs, autour de la table? pas trop. Pour l'instant, on communique pas trop. Le PSG a une communication assez limitée avant ce classique sur ceux qui ont été indisponibles ces derniers jours, ces dernières semaines.
Lucas qui devait pouvoir être peut-être...
A priori, Lucas, il a repris l'entraînement.
Voilà, exactement.
C'est pas a priori, d'ailleurs.
Voilà, il a repris l'entraînement. C'est peut-être celui qui est susceptible de... En tous les cas, c'est sûr qu'il sera des parties suivantes. S'il rentre pas à Marseille, je pense que Blanc s'appuiera sur lui face à Saint-Etienne et surtout face à Barcelone, parce que ce Lucas, à mon avis, c'est la future idole du Parc des Princes.
Il y a un joueur toujours très attendu dans les classiques et qui est déjà, bien sûr, l'idole du Parc des Princes, tellement attendu d'ailleurs qu'il était déjà au Vélodrome ce samedi. C'était avant le match de rugby de Toulon contre Toulouse. On a vu Zlatan souhaiter au public, on l'a tous vu sur les écrans, un bon match de merde, allusion à son dérapage verbal à Bordeaux. Plus sérieusement, bon, d'abord c'est plutôt une bonne idée, un bon gag de la part de Mourad Boudjelal,
le président du Toulon. C'est drôle, voilà, d'ailleurs ça n'a pas prêté à plus de conséquences que ça. Ça a peut-être motivé les Toulousains, en tous les cas, puisqu'ils sont revenus après une deuxième période extraordinaire. Voilà, non, je pense que tout le monde a compris que c'était du deuxième, voire du troisième degré.
Et est-ce que c'est pas finalement une façon involontaire d'annoncer un Zlatan géant dimanche prochain au Stade Vélodrome? C'est l'occasion rêvée pour lui de mettre un petit peu les points sur les i. Alors
on revient au départ
critiqué.
De l'émission, c'est exactement ça.
Motivé.
C'est une star, c'est un match pour lui. Cette fois-ci, il le marquera peut-être pas comme contre la Moldavie, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut sur lui dans ces matchs-là, évidemment.
Puis j'ai pas les stats en tête, mais j'ai comme l'impression qu'il marque beaucoup de buts là.
Je vais vous la donner. La stat, elle vient de notre ami Michel Collard avec son site Paris canalhistorique.fr. C'est tout simplement déjà Zlatan, le recordman de buts en classique avec Paoletta. Il a marqué 6 buts contre Marseille en match au Parc des Princes au Stade Vélodrome. Il a déjà 6 buts, donc il a l'occasion dimanche soir de devenir le recordman de buts lors des classiques. Voilà. Alors, on va pas évidemment se quitter avant un petit pronostic, messieurs, autour de la table. Pour cet OM-PSG, allez-y. Stéphane Bitton, foot123.fr.
Moi, je prendrais le contre-pied de Zinedine Zidane, qui était pourtant l'idole de ma jeunesse. Je vois le Paris Saint-Germain l'emporter. Je dirais 2-1.
2-1, c'est pas mal. Est-ce que vous allez au-delà de ce score, Jérôme Touboul de l'équipe?
Moi, je dirais 2-0 pour le PSG.
2-0, effectivement, c'est plus net. Hamza Izir de Metro News.
Franchement, j'hésite entre un nul ou une victoire de parisienne étriquée, quelque chose comme ça.
Allez, on faut se mouiller.
On va dire 1-1 pour me différencier.
Un petit 1 partout, on verra bien. Au MPG, le blockbuster du foot français, l'affiche dimanche soir.
Et l'idole de jeunesse de Stéphane, c'était juste Fontaine. Hein. Il faut rectifier quand même.
Je l'ai vu débuter. Et oui.
Eh ben on l'embrasse, il nous écoute juste Fontaine. Au MPG, on y sera bien sûr. On en parle toute la semaine sur France Bleu 107. Bonne soirée à tous. France Bleu 107.